Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Génération dérive. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Le dossier Monty. Il hésite à mettre l'espèce chemise dans sa valise. C'est ridicule. Si je pars en vacances, c'est pas pour travailler. Oh. Je l'emporte tout de même, tel que je me connais. Il la met dans sa valise et la ferme. Pose la valise à terre. Regarde autour de lui. Ferme l'armoire. Prend sa valise et sort de la chambre. Suit un couloir. Ouvre la porte d'entrée de l'appartement. Au fait, je suis libre, je ne pourrai pas partir. Ce que je vais faire là-bas, je peux le faire ici. C'est pas à 40 ans que l'on change d'habitude. Soupir, sort de l'appartement et ferme à clé. Il retrouve sa Mercedes, met la valise dans le coffre et entre dans la voiture. Regarde sa montre, 9h, 1er août, Paris est ensoleillé. 24 heures plus tard, National 7. Il faudrait que je cherche un petit restaurant. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Faire du stop avec la tenue qu'il a? Après ça, ça se plaindra de faire de mauvaises rencontres. Qu'est-ce que je fais? Je le prends? Oh, c'est les vacances. Je le prends. Il arrête sa voiture. Devant, un jeune garçon de 18 ans à peu près. Cheveux longs, bouclés, chantant roux. Visage enfant un peu moqueur, pas très grand, mince, jean déchiré aux genoux. Chemise blanche sale. Il a à la main un petit sac en toile bleue. « Tu veux monter ?»« Ouais. » Il ouvre la portière à côté de lui. Le jeune entre. La voiture démarre. Tu vas où? Sur la côte. Je t'amène jusqu'à Maison-la-Romaine. Ça te va? Oui. Je n'ose à peine le regarder. Surtout ne pas installer le silence entre nous. Tu vas dans ta famille? Non. Des copains? Non. Je m'appelle Claude Robinson. Et toi? Denis Leclerc. Il regarde droit devant lui. Le soleil lui fait cligner des yeux. Quel tignasse il a. On dirait vraiment un gosse. Tu as quel âge? 18. Il en paraît à peine cède. Moi, avec mes 40, te regarde dans le rétroviseur. La touche que j'ai. Cheveux grisonnants, visage ovale, presque maigre. Quelques rides au front. Je ne suis pas très grand, mince. Pantalon blanc et cheveux beige. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en seconde. Ah, moi je suis écrivain. Si tu permets, nous allons nous arrêter ici. J'ai faim. Et toi? Moi aussi. Il y a sa voiture devant l'entrée d'un petit restaurant qui se trouve dans la rue principale d'un petit village. Ils descendent de voiture. Le jeune le suit. Bien, on peut dire que tu as faim. Ouais. Ça fait combien de jours que tu fais du stop? 3. Tu viens de loin? Paris. Bien, on peut dire que c'est pas rapide le stop. Oui, mais j'ai fait beaucoup de hortes chez des copains. Tu veux un café? Non. On y va? Ouais. Il paye. Et ils sortent. Pendant que je conduis, monsieur ouvre la boîte à gants. Il fouille. Que trouve-t-il? Cigarettes. Des papiers. Des Kleenex. Quelques cassettes. Ces jeunes ont une façon de faire qu'on ne peut pas leur en vouloir. Ils sont tellement naturels. Le voilà qui ouvre mon portefeuille. C'est qui ça? Ça, c'est la photo de mon neveu. Il s'appelle Didier. dort. Il dort la bouche légèrement ouverte, les jambes écartées, les mains entre les jambes. Il a l'air encore plus jeune que lorsqu'il est réveillé. Oh ! Sa tête a basculé sur mon épaule. Je sens l'odeur de ses cheveux qui me caressent le cou. Roulons sans trop de faire de secousses. C'est vraiment un gosse. Que doit-il penser de moi, un vieux? Fait partie d'une génération à la recherche d'un père. Petit être qui erre à la recherche d'un dieu, d'une idole. Génération à la dérive. En tuant les pères, les héros, les dieux, on a tué l'âme, le sel de la vie qui guide les générations présentes et à venir. Il s'accroche à qui? À quoi? Rien. Plus de maître à penser, plus de modèle. Cela fait des êtres comme celui-là à la dérive. À force d'être ainsi, ne risque-t-il pas de perdre l'amour des autres et d'aimer les autres? Si c'était ainsi, ce ne serait plus qu'une génération de robots sans âme. Il se tourne vers lui. Non, c'est impossible. Il y a encore espoir. Me voici arrivé, ou nous voici arrivés, maison la Romaine. J'ai acheté cette petite maison il y a de cela 10 ans. Je venais de toucher un héritage, petite maison d'un étage, toute simple, au rez-de-chaussée, cuisine, salle à manger, salle de bain. Au deuxième étage, 2 chambres. J'ai tout meublé avec de vieux meubles du pays. Il arrête sa voiture devant la maison, qui se trouve un peu en retrait de la route. Que vais-je faire avec lui? Je le réveille et lui dis de partir ou je le garde pour la nuit? Il se penche, il dort profondément, il le secoue. Denis ouvre les yeux. Nous sommes arrivés. Tu veux dormir chez moi ou continuer ta route? Denis ouvre ses épaules. Chez toi. Ils sortent de voiture. Claude prend la valise dans le coffre. Ils entrent dans la maison. Claire, ça sent un peu le renfermé. Je vais te montrer ta chambre. Il monte à l'étage. Claude ouvre une porte. C'est la chambre. Voilà, ils entrent dans la chambre. Petite chambre à un lit, avec armoire et table de nuit campagnarde. Denis regarde, pose son sac à terre. Cela te plaît? Ouais. Je peux prendre une douche avant de manger? Oui, la salle de bain est en bas. Ils sortent de la chambre. Et descendent. Claude lui ouvre la porte de la salle de bain. Denis entre. Et Claude va s'asseoir à la salle à manger. Il s'assoit dans un fauteuil. Cinq minutes de repos. Après, j'irai à la cuisine. Il entend l'eau qui coule. Je suis sûr que ça fait 1 semaine qu'il ne s'est pas lavé. Tout à coup, apparaît ruisselant et nu, Denis. Tu peux me donner un gant, du savon, une serviette? Claude met quelques secondes pour réagir. Denis s'approche de lui. Oui, Bien sûr. Et il se lève. Va dans la salle de bain. Ouvre l'armoire et en sort ce que demande Denis. Merci. Claude passe devant Denis et sort de la salle de bain. Il est beau, un véritable petit corps d'enfant. Et il retourne à la salle à manger. Un quart d'heure plus tard, Denis revient nu avec une serviette à la main. Merci. Il sourit, met la serviette à terre, aux pieds de Claude. Et s'allonge sur le ventre, la tête sur les bras repliés, tournée vers Claude. J'ai faim. De me laver, ça me donne toujours faim. Claude sourit. Tu vis tout seul? Oui, et toi? Moi? J'ai ma mère, deux frères et deux sœurs, banlieue et tout, quoi. Ton père est mort? Non. Il a foutu le camp, il en avait marre. Denis se retourne et dit « J'ai faim ». Claude se lève. Je vais te préparer le dîner. Et moi, je vais m'habiller. Après le repas, nous sommes retrouvés dans la salle à manger. Je me suis remis à la même place. Denis est debout dans la pièce. Il regarde, touche, bouge. Ces livres, ce sont tes bouquins que tu as écrits? Pas tous, les 7 qui sont tout en haut. Et c'est quoi que tu écris? Des romans, des biographies. Tu en écris un en ce moment? Oui, La vie de Montgomery Cliff. Qui c'est? Un acteur de cinéma. Oh, pff, le cinéma, je connais pas. Moi, c'est le rock. Et il va s'asseoir à ses pieds. C'est bien chez toi. Tu as tout ça pour toi tout seul. Chez nous, on n'a pas la moitié. Puis, il monte se coucher. Je suis crevé. Je suis réveillé. Et Denis, il entre dans mon lit. Il est nu, il se blottit contre moi. Je le caresse, le retourne, le couvre, enfonce ma tête dans ses cheveux, hume son odeur, le serre, l'embrasse, le couve. Je n'ose pas croire que je tiens entre mes mains ce corps si fin, si délicat, sans poils, des fesses de nouveau-né. Je ris, il rit, je l'embrasse, nous faisons qu'un, je sens contre mon ventre son sexe blanc, à peine adulte qui bande, me baisse et le baise. Il écarte les jambes, se soulève pour que je puisse lui caresser les fesses en même temps. Je jouis avant lui, nous nous endormons enlacés. Thank you. Lorsque je me réveille au petit matin, il est blotti sous moi, tout contre moi, comme un oiseau. Je le couvre, le protège, comme s'il était dans le ventre de sa mère. Mais moi, je n'ai nulle envie d'accoucher. Bien au contraire, j'aimerais la te voir toujours en moi. Restons ainsi un quart d'heure, puis tout son corps se tortille. Se réveille, me voit, m'embrasse et veut sortir de son cocon. Lorsqu'il en sort, je sens un grand froid m'envahir. Je m'allonge sur le dos. Il est debout devant moi. Il me dit « J'ai faim, je vais dans la salle de bain » et il sort. Je me lève, prends une robe de chambre qui est sur une chaise et sors préparer le petit déjeuner. Décidons de passer la journée à la maison et je range ce qu'il dérange. Et il dérange ce qui est rangé. Souvent dans la journée, il vient se blottir contre moi. Pas de mots tendres. Il fait partie d'une génération muette qui s'exprime par gestes. C'est peut-être aussi bien. Ses sourires valent tous les mots d'amour. J'ai l'impression de vivre en rêve. J'ai peur de me réveiller. Combien de temps cela va-t-il durer? J'aime mieux ne pas y penser. Soir, comme la première fois, il est allé se coucher. Dans mon lit, j'attends qu'il vienne me rejoindre. Inquiet, j'attends. Et comme la première fois, il vient me rejoindre. Bonheur complet. Demain matin, nous décidons de visiter les environs. Nous prenons la voiture le matin et revenir que le soir. Journée ensoleillée, tendre et douce. Il ne s'intéresse guère aux monuments. Ce qui l'intéresse, c'est faire de la voiture et se coucher au soleil. Je l'ai fait conduire. Il n'a pas son permis et je crois qu'il m'a menti pour son âge. Mais qu'importe, Ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. Passe, heureux et paisible. J'aime ses gamineries, sa façon qu'il a de fouiller dans mes affaires, de mettre du désordre, de laisser la chambre et la salle de bain sales. Une nuit, il me demande de faire un bain de minuit à la mer. Nous sommes partis comme des gamins. Connaissait un endroit calme et un peu isolé. Nous nous sommes baignés nus et fait l'amour sur la plage. L'impression avec lui de vivre, ou plutôt de revivre mon adolescence. J'ai complètement oublié mes angoisses, la peur de vieillir, de ne plus plaire, de peur de mes rides. Je laisse tout cela pour plus tard. Pour combien de temps? Je n'en sais rien. C'est la première lettre et mes premières vraies vacances. Car je ne travaille pas. J'ai bien essayé les premiers jours, mais comment penser à autre chose qu'à lui? Il est tellement présent. Même lorsqu'il n'est pas dans une pièce, est tellement imprégné par son passage. Chaque objet qui touche me le rappelle. Quelquefois, j'aimerais lui dire mon amour, mais je n'ose pas, car il ne m'en parle pas. En dehors de nos nuits, il agit comme si j'étais un copain de son âge. Et je sens malgré moi qu'il doit avoir un peu de tendresse pour moi. Quelquefois, oh, j'aime mieux ne pas y penser, ne pas me poser de questions. Un soir, je lui demande d'aller chercher du pain chez le boulanger du coin. « Tiens, prends les clés, car si je suis dans mon bain, je ne risque pas de t'entendre. » Son retour, il voulait me les rendre. « Garde-les, tu es chez toi. » Il les a mis dans sa poche sans rien dire. Le lendemain soir, il traîne dans la salle à manger. Je le regarde, l'on dirait un ours à cache. Tout à coup, il s'approche de moi. Je sors et il quitte la pièce. Il est 21h. J'attends, inquiet et triste. Reviendra-t-il? Ne reviendra-t-il pas? Avec qui est-il? Que fait-il? C'est moi qui suis comme un ours en cage. Je n'ai aucun droit sur lui. Il peut partir comme il veut. À 24 heures, je me suis couché. Je ne peux pas dormir. Je tourne et me retourne. Moindre bruit me fait sursauter. Petit matin, j'arrive à dormir. Lorsque je me réveille, la chambre est baignée de soleil. Je regarde mon réveil sur la table de nuit, 9h30. Peut-être est-il rentré sans que je l'entende. Je me lève. Mets ma robe de chambre. Sors de ma chambre. Frappe à celle de Denis. Pas de réponse, j'ouvre. Le lit n'a pas été défait. Entre dans la chambre. Ouvre l'armoire. Non, toutes ses affaires sont là. Je lui avais acheté quelques vêtements de rechange. Il revient, il est 13h, je suis dans la salle à manger. Il vient vers moi. La mine défaite, les vêtements poussiéreux. J'ai faim. D'où viens-tu? J'ai passé la nuit chez des copains. Puis se retourne et se dirige à la cuisine. Je me lève et le suis. Je le retrouve assis à table. Tu te rends compte de l'heure qu'il est? Je me suis distrait, c'est tout. La prochaine fois, préviens-moi. Soupir, ne réponds pas, je réchauffe le repas de midi. Cette nuit, il est venu me retrouver. Mon corps n'avait plus cette souplesse. Le lendemain, il me demande de lui payer une moto. C'est ce que je fais. Je ne le vois plus de toute la journée. Et la nuit, il ne vient plus me rejoindre. J'en perds le sommeil. Mais que faire? Il est parfaitement libre. Il vient. Il entre. Il dérange. Et sort. Je me fiche pas mal du désordre qu'il met dans les corps, mon corps. J'ai envie de lui hurler. Je suis là. Je suis vivant. J'existe, non? Pas de parole, pas de geste. Pourquoi ce mutisme? Se rend-il compte que je souffre? Il faut que je lui parle. J'en ai assez. Thank you. J'attends son retour. Il faut que je lui parle, et je lui parlerai. 23 heures, il entre. Il est surpris de me voir debout. Il a la mine défaite, la bouche boudeuse des mauvais jours. Malgré cela, je suis attaché à lui, au corps, à ses gestes, à son désordre. Je ne veux pas le perdre, mais peut-être l'ai-je déjà perdu. J'aimerais que nous parlions, Denis. Depuis quelque temps, nous ne parlons plus. J'ai l'impression de ne plus exister pour toi. Si tu savais comme cela me fait souffrir. Je suis crevé. Bonne nuit. Et il monte à l'étage. Ah, je n'en ai pas le courage. Le garder et souffrir ou souffrir sans lui. Pourquoi me suis-je attaché à lui? Ils se croient tout permis, ces jeunes. Au petit matin, je décidai qu'il devait me quitter. À son petit déjeuner, je lui dis : Denis, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé que tu devais partir. Ce n'est plus possible, nous deux. Tu ne dis rien ? Il se lève. Sort de la cuisine. Je le suis. Il monte à l'étage. Non ! Il se retourne. Je ne veux pas que tu me quittes. Il descend les escaliers. Je le plaque contre moi. Ce soir, je suis invité à une soirée chez des amis qui ont une villa avec piscine. J'y vais avec Denis. Lorsque nous arrivons, il y a plein de monde dans le parc et à l'intérieur de la maison. À part les autres, je ne connais pas grand monde. La soirée se passe bien, je danse un peu, Denis aussi. À 3 heures du matin, je me sens fatigué et veux rentrer. Mais où est Denis ? Je le cherche de partout, demande, personne ne l'a vu.
C'est bien ce que je pense, c'est tout le temps.
Il faut que je me montre, c'est mon métier.
Je suis sûr que cette mascarade était nécessaire.
Nécessaire, non, mais je suis sûr qu'en définitive, elle sera assez fouette. Ah, bonsoir.
À la fin de la soirée, lorsqu'il n'y a plus d'invités, épuisé, démoralisé, je repars. Avant de rentrer chez moi, je sillonne les environs. maître est-il rentré ? Non, mon Dieu. Une semaine abominable à le rechercher dans les environs. Je suis rentré à Paris, épuisé, le moral à zéro. Septembre, la rentrée, mon éditeur qui me téléphone. Pour savoir où en est mon livre. Oui, mon livre, je l'avais complètement oublié. Je retrouve mon dossier dans la valise. Je le prends et le mets sur mon bureau. Aurais-je le courage d'écrire cette biographie ? Si en plus de ma vie, je suis obligé de me remémorer celle de Monty, il y a de quoi se suicider. Mais non, l'on a la peau dure. Et une semaine plus tard, je commence mon travail. Ce qu'il y a de plus dur, ce sont les nuits, ce grand vide, le corps, le parfum de Denis, ses sourires, son visage buté. J'ai malgré tout passé de bons moments, des moments inoubliables. Il y a des jours où j'ai envie d'hurler, alors je prends ma voiture. Je roule à une vitesse folle. En direction de Lyon, mais après 2 heures de route, je reviens épuisé. Je n'ai envie de voir personne, je reste enfermé chez moi à travailler pour oublier. Il y a une chose qui me peine, c'est que je n'ai rien de lui, même pas une photo. Le temps passe, 6 mois plus tard, mon livre sur Monty est fini. Le printemps est là, capricieux comme toutes les années. J'ai repris mes habitudes. Je sors, je revois mes amis, et quelquefois même, je drague. L'on sonne à ma porte. Dès 21h et j'allais me préparer à me coucher, car demain je pars pour Montréal. Je vais ouvrir. Et ouvre sans regarder au Judas. Denis ? Il entre. Je referme la porte machinalement. Je suis ému, il n'a pas changé. Que viens-tu faire ici ? Il hausse les épaules et reste debout sans bouger. Tu pars, tu viens comme ça, sans explication, et tu crois que je vais accepter cela ? Eh bien non. Pour qui te prends-tu à agir ainsi ? Je ne veux pas recommencer à souffrir comme j'ai souffert. Sort de sa poche les clés, me les tend et « Tant pis pour toi », me dit-il, et sort. Je tremble de tous mes membres. Non ! Je sors. J'entends ses pas dans les escaliers. Lui crie du haut du palier. Reviens ! J'aime mieux souffrir d'amour que ce vide dans ma vie. La porte de l'allée s'ouvre et se ferme. Denis ! Je descends les escaliers en vitesse. Ouvre la porte de l'allée. Rue est vide. Je cours à gauche. À droite. Et son nom ? Rien. Chez moi effondré et vais me jeter sur mon lit, tête la première. Garder durant tout ce temps les clés dans ma main, je les embrasse, les baigne de larmes. Le lendemain matin, l'on sonne à ma porte. Je me lève difficilement, j'ai mal à la tête, les muscles raides. Ouvre. En ouvrant, je ne me fais pas d'illusions. C'est un flic. Monsieur Claude Robinson ? Oui. Un jeune homme a eu un accident. Il a été accroché par un camion sur l'autoroute. Pas de papier sur lui, sauf un bout de papier où était marqué votre nom et votre adresse. Pouvez-vous venir avec nous, s'il vous plaît, pour que nous puissions découvrir l'identité de cette personne ? Il est blessé ? Nous ne savons pas. Mort, venez avec nous. Quelle heure l'accident a-t-il eu lieu ? D'après les médecins, 3h du matin. Le chauffeur dit qu'il marchait au milieu de l'autoroute d'une façon désemparée ou insouciante. Il n'a pas pu l'éviter, ni les autres véhicules qui l'ont suivi d'ailleurs. Il avait 16 ans et demi, et cela faisait un an qu'il errait. Après l'enquête, la seule halte qu'il ait eue, il l'a eue avec moi. Ce n'était pas mon homosexualité qu'il recherchait, mais mon affection, un refuge, un adulte. Génération à dérive, sans père ni loi. Ta seule façon de t'exprimer est de demander, prendre ou mourir. Et dire que ceux qui ont fait cette génération sont ceux qui ont fait 68. Vous devriez avoir honte de faire vivre vos enfants dans un monde qui est le contraire de votre idéal. Thank you. Radio Canet vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Génération Dérive. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.